Vous écoutez
RMC. RMC. 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue sur RMC. Nous sommes le lundi 29 avril, on commence cette journée, cette semaine, tous ensemble évidemment sur RMC. Vous connaissez la recette, notre morning routine, comme disent les jeunes, de l'info, du débat, de la bonne humeur et surtout Géraldine Demory. Salut Géraldine.
Salut Charles, ça fait plaisir de te retrouver, dis donc.
Oui, même moi, ça me fait. Tu m'as manqué, on peut se le dire.
On
se le dit hors antenne, on peut aussi se le dire à l'antenne. Oui, ça fait toujours plaisir de revenir de vacances et de vous retrouver tous ensemble, fidèles au poste de bon matin, avec Géraldine, avec toute l'équipe, Yann et Arthur en régie. Quentin et Nico vous attendent au standard. Le 32-16, c'est parti, est ouvert. Vous venez quand vous voulez vous installer autour de la table avec nous. Tiens, et puis je suis content de rentrer parce qu'on commence la semaine avec une bonne nouvelle. En tout cas, pour les supporters parisiens, il n'y avait pas beaucoup de suspense, mais ça y est, le 12e titre de champion de France du PSG est acquis. Alors, Paris est champion depuis hier soir sans jouer, en fait, grâce à la défaite de Monaco face à Lyon. Bon, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les supporters parisiens, mais les supporters parisiens attendent surtout cette semaine, évidemment, le match aller face à Dortmund. On aura aussi l'OM face à l'Atalanta. Bref, c'est une grande semaine de foot qui s'ouvre. On va d'ailleurs aussi saluer les Lyonnaises. Mais oui, les filles de l'Olympique Lyonnais qui, elles, ont battu le PSG hier en demi-finale de Ligue des Champions. Elles sont qualifiées pour la finale de la Ligue des Champions. Ça aussi, il faut le saluer. Voilà, les filles du foot qui brillent,
yes,
les Lyonnaises.
Bravo, les
mais
filles.
Oui, on va y revenir tout à l'heure dans la Story Sport de Jordan Olivier. On a plein d'infos, plein d'actu à partager avec vous ce matin sur RMC. Vous avez bien fait de vous lever tôt avec nous. D'ailleurs, dites-nous ce que vous faites raconter de si bonne heure. Et puis, on vous attend ce matin pour témoigner autour d'un sujet très sensible, un sujet tabou en France, celui de la GPA, la gestation pour autrui. Est-ce qu'il faut enfin ouvrir ce débat sur la GPA en France?
En tout cas, c'est la ministre chargée de l'enfance, Sarah El Haïry, qui le souhaite. Hein. C'est elle, c'est ce qu'elle a déclaré hier sur RMC. Pourtant, la ligne officielle du gouvernement, c'est pas de GPA. Emmanuel Macron avait affirmé en 2017 qu'il s'agissait d'une question d'éthique et de dignité.
Oui, mais quand on interroge les Français, ils sont plutôt favorables. Dans un sondage paru hier, on apprend que 59% des Français sont favorables à la légalisation de la GPA. Alors vous, ce matin, dites-nous au 32-16, est-ce que vous souhaitez qu'on ouvre enfin ce débat? Sarah El Haïry veut mettre fin, dit-elle, à l'hypocrisie, parce qu'en France, il y a des enfants nés d'une GPA, d'une mère porteuse à l'étranger, qui sont reconnus. C'est un parcours du combattant pour ces couples. Alors, on vous pose la question. N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Vous êtes favorable ou pas? Vous avez connu des parcours de GPA pour vous, autour de vous. N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Il y a aussi l'appli RMC avec Direct Studio.
Et puis, on trouvera bien sûr aussi Manu Le Chiffre. Juste après 6h, Manu joue les fleuristes ce matin. Tiens, à l'approche du 1er mai. Et puis, dans la bande, à 5h40, Anthony Morel se lance dans une course de voiture du futur. Une course de voiture autonome.
Ah, ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Il y a des voitures sans pilote qui font la course, mais tout de suite, on va regarder la météo du jour avec notre Ferrari de la météo, Géraldine Demory. Géraldine, c'est toujours assez gris, voire très pluvieux.
Et oui, et en particulier sur le Languedoc-Roussillon. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les Pyrénées-Orientales.
Oui.
Moins bonne pour des autres départements où il y a quand même pas mal de pluie. Globalement, il va pleuvoir des Pyrénées au Massif Central et à la Bourgogne. Vers le nord, les pluies seront beaucoup plus faibles. Et puis, sur toutes les autres régions, ce sera un temps sec avec généralement de belles éclaircies. Soleil voilé quand même dans l'est avec des poussières de sable du Sahara qui pourraient remonter et voiler quand même beaucoup le ciel. Les températures, c'est assez doux pour aujourd'hui. Il fera jusqu'à 18 degrés à Lyon, 19 à Bordeaux, Lille, 20 à Paris, Marseille, jusqu'à 25 pour Ajaccio.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
Excellent réveil à tous. Bon courage en ce lundi matin. Vous êtes sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h, toute l'info, c'est en direct, c'est sur RMC avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Alors que le Premier ministre entame ses consultations sur l'ultra-violence des mineurs, deux personnes viennent de passer la nuit en garde à vue après la mort d'un nouvel adolescent ce week-end à Châteauroux. 200 passagers d'un TER bloqué et le trafic ferroviaire interrompu au moins jusqu'à mercredi entre Lyon et Givors. Conséquence des fortes pluies qui sont tombées hier. Et puis Paris, champion de France pour la 12e fois et désormais cap sur la Ligue des Champions, demi-finale. Finale aller à Dortmund mercredi.
Une mère et son fils en garde à vue ce matin après la mort d'un adolescent à Châteauroux.
Mathis, 15 ans, tué de plusieurs coups de couteau en fin de journée samedi pour une raison encore inconnue. Le principal suspect, lui aussi âgé de 15 ans, était déjà sous contrôle judiciaire pour une autre agression une semaine plus tôt. Et sa mère pourrait avoir joué un rôle dans la mort du jeune Mathis ce week-end. Un drame auquel plusieurs habitants de ce quartier de Châteauroux ont assisté et qu'ils ont accepté de raconter au micro RMC d'Ameline Lafchin.
C'est au pied de son immeuble que s'est passé le drame. Marie-Mathilde était chez elle quand elle a entendu du bruit.
J'étais à la fenêtre, là j'ai vu un jeune homme à terre. Tout de suite, je suis descendue aider. Il était blanc de chez blanc. J'étais choquée, je comprenais pas ce qui se passait. Et c'est quand on a soulevé le t-shirt et qu'on a vu les coups de poignard que là, ça a été vraiment impressionnant.
Rapidement, les secours interviennent, mais l'adolescent décède au cours de la soirée. Depuis, cette mère de famille ne cesse d'y penser.
Je peine à rester là. Là, c'est mentalement, c'est très 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 dur.
Au rez-de-chaussée du même bâtiment, une autre voisine a elle aussi assisté à la scène.
J'en ai pleuré parce que c'est horrible hein, de voir le petit par terre comme ça, plein de sang. Moi, je pense aux parents des deux côtés qui doivent être dévastés.
La procureure de Châteauroux expliquait hier que l'agresseur présumé avait été mis en examen il y a une semaine pour vol aggravé avec violence. Connu de beaucoup dans le quartier, son implication n'étonne pas vraiment Fabrice.
Quand j'ai connu, il avait 13-14 ans, c'était un petit garçon qui était super gentil. Ça fait un an qu'il a complètement changé, même avec moi. Il se permettait d'hausser la voix, il voulait me taper. Dès qu'on a vu qu'il avait des soucis, c'est tout de suite qu'on aurait dû prendre soin de lui. Peut-être pas l'incarcérer, mais le mettre dans une maison où il puisse pas sortir, où on puisse s'occuper de lui.
Hier, on apprenait que sa mère avait également été placée en garde à vue, soupçonnée d'avoir joué un rôle dans cette affaire.
Et le maire de Châteauroux a réagi dans un communiqué. Il réclame une peine exemplaire et dénonce cette ultra-violence, dit-il, qui gangrène notre société. Et ce sera justement le sujet des consultations menées à partir d'aujourd'hui par le Premier ministre, Gabriel Attal, qui veut s'attaquer à l'ultra-violence des mineurs, qui doit donc recevoir les représentants de tous les partis politiques. Il est 5h02, de la pluie, des orages, de la grêle. Le sud-ouest a été frappé ce week-end par de fortes intempéries et hier, c'est le Rhône qui était sous l'eau. Sur Lyon, il est tombé en 24 heures, l'équivalent d'un mois de précipitations, de quoi forcément provoquer des dégâts. Un train a même déraillé, Marion Gauthier.
Oui, un TER qui se dirigeait vers la gare de Lyon-Perrache. Vers 19h sur la commune de Grigny, il heurte des cailloux tombés sur les voies après une journée de pluie battante. Freinage d'urgence, choc des 200 passagers, mais pas de blessés. Les pompiers, de l'eau et des plateaux repas sont envoyés sur place. Les passagers attendent jusqu'environ 23 heures pour être évacués à la lumière des lampes frontales. Fin du périple vers 1h du matin. Le train, lui, est en partie sorti des rails. Il devra être réinstallé. Les dégâts sur la voie réparés. La ligne est fermée au moins jusqu'à mercredi. Un peu plus au sud de Lyon, c'est l'autoroute A47 entre Lyon et Saint-Étienne qui est coupée. La chaussée inondée au niveau de Givors. Le pic est passé, assuraient les pompiers tard dans la nuit. Ils ont recensé une centaine d'interventions dans la journée.
Marion Gauthier, les naufragés du train et les naufragés de la route se privaient depuis 10 jours de l'autoroute A13, fermée entre Paris et Vaucresson à cause d'une fissure provoquée par un mouvement de terrain. Et cette autoroute ne rouvrira pas au 1er mai comme prévu. Il va donc encore falloir s'armer de patience, Inès Zegloul.
17 kilomètres seulement séparent ce résident des Yvelines du centre de Paris. 17 kilomètres, mais la 13 fermée.
Ça me fait un très gros détour.
Car Wessigny a dû revoir tout son itinéraire. Désormais, il emprunte des départementales, coupe à travers les centres-villes et chaque matin, pour aller travailler, ce n'est plus une demi-heure de trajet, mais...
1h3/4. Je dors 5h30, quoi, maintenant. J'arrive très fatigué au travail.
Des axes saturés où se déversent les usagers de la 13 par choc contre par choc.
Pour être à l'heure, il faut que je parte vers aller 6h30.
Alors Jérémy a trouvé une solution.
Oh, ça serait trop compliqué, ça serait trop la galère. Donc je me suis dit, non, je vais télétravailler pour que ce soit plus simple.
Oui, mais alors, jusqu'à quand? Car tous réclament une réouverture rapide, mais Walid Mouali, spécialiste des infrastructures routières, n'y croit pas.
Les fissures, elles ont évolué. Elles ont donné lieu à des micro-fissures par endroit. Là, pour le coup, il y a une petite inquiétude à avoir. Je pense qu'il ne faut pas être très optimiste quant à une réouverture prochaine de cette portion d'autoroute.
Des experts se réunissent en tout cas aujourd'hui pour envisager une nouvelle date de reprise du trafic.
Et pour en parler, le ministre des Transports, Patrice Vergriete, sera l'invité d'Apolline à 7h40 ce matin. L'occasion de revenir aussi sur la demande de plusieurs élus qui réclament des mesures de compensation financière pour les automobilistes. Mais avant cela, l'État vient à la rescousse d'Atos, le géant français de l'informatique qui se porte mal. Et Bruno Le Maire l'a annoncé hier, il a manifesté son soutien à l'entreprise. Le ministre de l'économie sur LCI a expliqué l'enjeu derrière cette future acquisition de l'État.
Il y a dans Atos un certain nombre d'activités qui sont stratégiques pour la nation française. En matière de cybersécurité, en matière de supercalculateurs, en matière de nucléaire. J'ai déposé ce week-end une lettre d'intention en vue d'acquérir toutes les activités de souveraineté d'Atos. Car c'est le rôle de l'État de défendre les intérêts stratégiques d'Atos et d'éviter que des technologies qui sont sensibles, qui sont décisives en matière de supercalculateurs ou en matière de défense, puissent à n'importe quel moment dépendent d'intérêts étrangers.
Le gouvernement au chevet des entreprises et au chevet de présidents d'universités, celui de l'Université de Lille en l'occurrence, la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé hier que le gouvernement allait porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon qui l'avait comparé au nazi Adolf Eichmann.
Et puis le foot, le PSG, qui a donc remporté son 12e titre de champion de France.
Un record dans l'histoire de la Ligue 1, titre remporté sans jouer, qui plus est grâce à la victoire de Lyon 3-2 contre Monaco et désormais Arthur Perrault, l'objectif des Paris. Eh bien, c'est évidemment la Ligue des Champions.
Oui, et Luis Enrique ne compte pas s'arrêter là. Première saison à Paris et premier titre de champion de France. Pour d'autres consultants, Jérôme Roten, le coach espagnol a réussi sa mission.
Ça a beaucoup fait de débat, comment Luis Enrique arrivait à faire tourner son effectif, mais n'empêche qu'il l'a bien mené. Je trouve que c'est un très beau champion.
Arrivé à l'été 2023, Luis Enrique fait mieux que ses prédécesseurs. Une série d'invincibilité de 26 matchs consécutifs. Les Parisiens n'ont plus perdu depuis le 15 septembre dernier.
Je trouve qu'ils ont été, en termes de régularité, très impressionnants. Le travail de Luis Enrique est remarquable. Il montre que le technicien est à la hauteur des attentes.
Le club parisien peut désormais se concentrer sur son ultime objectif, la Ligue des Champions. L'éditorialiste Daniel Riolo est confirmé.
C'est un atout qui est absolument formidable. On va pouvoir ranger ce titre de champion. Pensez maintenant à la double confrontation contre le Borussia Dortmund. Là, le rêve, il est plus que permis. Il est autorisé, il est là.
Autre trophée à portée de main, la Coupe de France avec la finale dans un mois contre Lyon. Paris est encore en lice pour un quadruplé historique.
Et le PSG affrontera le Borussia Dortmund mercredi à 21h pour le match aller. Et puis les autres infos de ce week-end en Ligue 1, c'est Brest qui sera bien européen la saison prochaine après sa victoire spectaculaire 5-4 face à Rennes. L'Olympique de Marseille se replace aussi dans la course à l'Europe en battant Lens 2-1.
C'était le journal.
Et oui.
Délice d'Angers. Non mais je pensais, oui, oui, Daniel Riolo a raison. Maintenant, ça y est, la question du championnat de France est mise de côté au moins pour le PSG.
Et là, on y va là. Hein.
Et là, voilà, il reste objectif Dortmund, objectif quadruplé historique. Est-ce que vous y croyez? Tiens, n'hésitez pas. Hein, là aussi, le 32-16 est ouvert. C'est une grande semaine européenne qu'on va vivre sur RMC. Le PSG mercredi, l'OM jeudi. Et puis, on va aussi saluer les filles du foot, les Lyonnaises, qui, elles, se sont qualifiées hier soir pour la finale de la Ligue des Champions en battant les filles du PSG. On y reviendra tout à l'heure dans la Story Sport. Mais bon, voilà, le foot français qui brille chez les garçons, chez les filles. On va le saluer, évidemment, et le vivre sur RMC. On vivra aussi le prochain journal d'Élise tout à l'heure, à 6h.
Et ce sera aussi intense hein, que le foot.
Ce sera aussi intense. On sera aussi tous ensemble. Ah bah tiens, j'en profite parce que je dis souvent qu'on est tous ensemble le matin sur RMC dans Charles Matin. Vous pouvez croire que c'est une formule comme ça, mais non, on a eu vous savez, les audiences, les chiffres de médiamétrie en radio, c'est compliqué, ça tombe tous les 3 mois. Je vais pas tout vous expliquer, mais en gros, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc on va tout simplement vous dire merci là à cette heure-ci, à 5h08, mais aussi à 5h30, à 6h,
oui, à 6h30,
à toutes les heures. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je peux vous donner un chiffre, vous êtes 400 000 à écouter Charles Matin pour vous donner une idée. Je sais pas, un stade de France, c'est 80 000. Donc on remplit, je sais pas, en gros, 5 stades de France tous les matins, tous ensemble sur RMC.
Et quelques vélodromes.
Et quelques vélodromes en plus, voilà. Je peux pas faire la compilation, mais oui, ça fait plusieurs...
Vous êtes un peu le Joule d'RMC finalement, Charles.
Allez, il est temps de passer à autre chose, de retrouver Élise tout à l'heure à 6h pour un prochain journal. Mais tout de suite, bah tiens, à 5h09, quand je dis qu'on est tous ensemble, allons faire un tour sur Direct Studio, voir si les leftos sont déjà là, Géraldine.
Bah, d'autant que j'ai plein de petits bonjours. Tiens, on a Ethan justement qui est dans un bus, là, en retour sur Brest, après un week-end sur Paris, une première fois au Parc des Princes. Donc Charles, on est champion, nous
mais
dit-il.
Oui, et puis du côté de Brest, on est aussi heureux parce qu'on sera européen, match incroyable hier. Bref, les Bretons seront en Europe l'année prochaine.
David qui nous fait un petit coucou de Nouvelle-Zélande. Tiens, on nous écoute vraiment partout. Et puis, vous êtes nombreux aussi à réagir à notre débat. Faut-il rouvrir justement le débat sur la GPA? Étienne est contre. Quelles qu'en soient les raisons, on ne peut pas monétiser un enfant. Alors que pour Agnès, avoir un enfant, c'est la plus belle chose. Tout ce qui compte, c'est que ses enfants sont désirés par des parents pleins d'amour.
Ah bah, très intéressant, ouais, ce débat de société sur la GPA. Ça traverse toute la société, toute la classe politique et même le gouvernement avec une ministre, hein, Sarah qui donc hier matin sur RMC a dit oui, il faut mettre fin à l'hypocrisie, avoir ce débat en France alors qu'on sait qu'Emmanuel Macron est contre. On sent bien que ça fait débat au sein du gouvernement, mais ce qui est intéressant, c'est de vous entendre, vous, les Français, ce matin au 32-16. Dites-nous, hein, est-ce que vous souhaitez qu'on ouvre enfin, qu'on lève l'hypocrisie, comme le dit la ministre, sur la question de la GPA, ou au contraire, est-ce qu'il faut que ça reste parfaitement interdit en France, alors que des enfants nés d'une GPA sont déjà évidemment aujourd'hui en France, élevés par leurs parents, reconnus par la justice, mais c'est un parcours du combattant, il faut aller à l'étranger, parfois payer très cher. N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert pour toutes ces questions, notamment si vous avez connu des parcours GPA autour de vous, pour vous-même. N'hésitez pas, évidemment. On attend vos témoignages. Mais le matin, on aime aussi vous récompenser avec notre jeu.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Eh oui, vous connaissez le principe, vous les fidèles d'RMC, vous vous levez tôt, vous écoutez toute l'info, et ben on va vous faire gagner des cadeaux, mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu du jour.
Question très difficile ce matin. Quel club a remporté hier son 12e titre de champion de France en Ligue 1, ce qui rend Charles très heureux ?
Allez, voilà, ça fait un indice de plus. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez actu par SMS au 732-16. Actu au 732-16, il suffit d'envoyer un petit SMS, et qu'est-ce qu'on remporte ?
Un super radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller tous les matins avec RMC.
Ouais, et puis vu la question et la réponse ce matin, j'ai envie de rajouter aussi la cote pour smartphone RMC. Voilà, on va vous gâter tout à l'heure. Si vous êtes tiré au sort, vous serez en direct avec nous à 6h20. Mais pour ça, il faut envoyer tout de suite actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, police justice.
Et tous les matins, votre rendez-vous avec le service PJ, et on retrouve même le chef du service police-justice d'RMC ce matin, Guillaume Biais. Bonjour Guillaume.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, Guillaume, vous nous emmenez au Pays de Galles pour nous raconter l'histoire de cette famille qui a pris la mauvaise habitude d'aller au restaurant et de partir sans payer.
Oui, une famille de 8 personnes, 4 adultes, 3 enfants et un bébé, ils se sont lancés dans une tournée des restaurants à moindre frais, si l'on peut dire, puisqu'ils n'ont strictement rien déboursé. Ils prennent la fuite sans payer l'addition. La dernière fois, c'était dans un restaurant italien. Comme d'habitude, ils ont pris ce qu'il y avait de plus cher à la carte, notamment des bonnes pièces de viande. Et à la fin du repas, pour payer, il ne restait plus qu'une femme avec son fils. Sa carte bancaire ne passait pas. Elle a prétendu qu'elle allait en chercher une autre dans sa voiture. En attendant, son fiston est resté sur place. Mais sa mère n'est jamais revenue et au bout de quelques instants, le jeune garçon a lui aussi filé à l'anglaise. Au revoir le Bella Ciao, dont les gérants se retrouvent avec une addition impayée de 383 €. Et ils ne sont pas les seuls à s'être fait avoir par cette famille. Ce serait le 7e restaurant gallois victime de leur filouterie qui a commencé au mois de novembre pour un préjudice total qui se chiffre désormais à environ 1 200 €. Ça commence à être salé, l'addition. Alors la police avait déjà été alertée par un précédent restaurateur victimes, mais les agents ne s'étaient pas déplacés, estimant que ce n'était pas une intervention urgente. Donc, à défaut d'être identifié, bien cette famille spécialiste du resto basket court toujours.
Le récit de Guillaume Biais. Merci Guillaume, chef du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Faut-il ouvrir le débat sur la GPA en France, la gestation pour autrui ? C'est ce que souhaitent certains membres du gouvernement, en particulier la ministre chargée de l'enfance, Sarah El Haïry, qui l'a dit hier matin sur RMC. Elle veut mettre fin à l'hypocrisie. En France, il y a des enfants nés par GPA à l'étranger, mais la ligne officielle, celle d'Emmanuel Macron, c'est pas de GPA. Ce serait la porte ouverte à la marchandisation du corps des femmes, dit le chef de l'État. Ça vous fait réagir ce matin, pour ou contre une légalisation de la GPA ? Est-ce qu'il faut ouvrir ce débat ? Est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui en France sur ces questions ? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert pour tous vos témoignages. C'est à vous de nous dire, c'est tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 5h15 et vous êtes bien sur RMC. Bon réveil à tous.
Vous avez un problème ? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Arthur Asquin qui nous rejoint ce matin en direct. Bonjour Arthur.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Salut Arthur.
Alors Arthur, avec vous aujourd'hui, on va parler de la PMA, cette fois la procréation médicalement assistée. C'est Anne qui vous a contacté.
Oui, elle a 43 ans avec son compagnon. Elle veut faire un enfant, mais elle a des problèmes de fertilité. Elle a besoin d'un don d'ovule. Et c'est le début du désenchantement. D'abord, Anne est mal renseignée par l'hôpital auquel elle s'adresse. On lui dit qu'elle est trop vieille pour une procréation médicalement assistée. C'est faux. La PMA est possible jusqu'à 45 ans et prise en charge à 100% par la Sécurité sociale jusqu'à 43 ans. Mais surtout, Anne est née en Inde avant d'être adoptée par une famille française. Dans ces cas-là, les médecins font tout pour que l'enfant ait la même couleur de peau que ses parents. Il faut donc un don d'ovule d'une personne de même origine et ça rallonge forcément les délais. Pour un couple blanc, il faut compter 2 ans pour bénéficier d'un don d'ovule qui leur ressemble. Pour un couple mixte, c'est 3 à 10 ans.
Et comment on explique cet écart pour l'attente ?
Eh bien, parce qu'il n'y a pas suffisamment de donneuses. Fin 2022, il y avait environ deux fois plus de demandes que de dons. En France, le don d'ovocytes est un acte gratuit, possible pour les femmes entre 18 et 37 ans. La procédure est simple, mais contraignante. Il faut stimuler les ovaires avec des prises d'hormones pendant une dizaine de jours avant le prélèvement à l'hôpital, qui dure une dizaine de minutes.
Et alors, comment faire pour changer la donne pour Anne et toutes les autres?
En informant, comme nous le faisons ce matin, et en sensibilisant, comme le fait l'Agence de biomédecine. En octobre dernier, l'organisme a lancé une campagne nationale intitulée hashtag Fête des parents pour inciter aux dons.
Ah oui, mais Fête, F-A-I-T-E-S.
F-A-I-T-E-S, absolument, Charles. La campagne s'est arrêtée en janvier. Nous avons demandé à l'agence de prolonger l'effort de sensibilisation. Et c'est pour ça qu'Anne nous a écrit, pour appeler aux dons, mais aussi pour inciter les jeunes femmes à anticiper leur désir de maternité.
Moi, je le dirais franchement à toutes les jeunes filles, si vous êtes d'origine étrangère et que vous avez la possibilité de faire conserver vos ovocytes, faites-le. Si elles acceptent d'être donneuses aussi, elles aideront d'autres femmes.
Aujourd'hui, une des solutions qui s'offre à Anne, c'est l'Espagne, par exemple, où il n'y a pas de limite d'âge pour la PMA et l'accès aux dons est facilité, une démarche coûteuse.
Eh ben merci Arthur, on va suivre évidemment le parcours d'Anne et de toutes les autres, évidemment son combat. Vous le poursuivrez évidemment avec Amélie Rosic, toute l'équipe, ce combat de Anne. Et puis plus globalement, on rappelle aussi l'adresse pour vous contacter, pour contacter toute l'équipe d'RMC s'engage autour d'Amélie Rosic. C'est très simple, c'est un mail rmcavecvous@rmc.fr. Il est 5h18.
RMC, à vous de nous dire.
À vous de nous dire s'il faut aujourd'hui ouvrir le débat sur la GPA en France. Un sujet très sensible. Tiens, on l'a encore vu la semaine dernière. Marion Maréchal, candidate Reconquête aux européennes, qui s'en est pris sur Twitter au styliste Jacques Mus, qui vient de devenir papa avec son compagnon de deux enfants nés par GPA. Marion Maréchal l'a interpellé sur Twitter en posant cette question. Où est la maman?
Alors, la question de la GPA n'est pas du tout à l'heure du jour, hein, mais la polémique a poussé certains membres de la majorité du gouvernement à prendre position, comme la ministre chargée de l'enfance, Sarah El Haïry, c'était hier sur RMC.
Est-ce qu'un jour dans notre pays, on aura le courage d'avoir un débat serein? Moi, je pense que c'est nécessaire. Il ne faut pas avoir de malaise, de gêne dans notre pays. Comme on a réussi à poser la question de la fin de vie, comme on a réussi à poser des questions de bioéthique, je veux qu'on puisse sortir de cette hypocrisie pour protéger les familles dans leur diversité.
Sortir de l'hypocrisie pour protéger justement ces familles, ces enfants nés par GPA qui aujourd'hui grandissent en France. Mais officiellement, la ligne du gouvernement, c'est pas de GPA. En 2017, par exemple, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il s'agit d'une question d'éthique et de dignité. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, hier, a déclaré qu'il craignait une possible marchandisation du corps de la femme, mais que le débat n'était pas clos pour autant. Voilà, on sent une certaine gêne au sein de l'exécutif. Le débat est loin d'être tranché.
Et d'ailleurs, d'après un sondage CSA, 59% des Français sont favorables à la GPA, 64% des femmes, 52% des hommes, donc majoritairement, vous seriez plutôt pour la GPA.
Alors à vous de nous dire ce matin, est-ce que vous souhaitez qu'on ouvre enfin le débat sur la GPA en France? La ministre dit qu'il faut lever le tabou, sortir de l'hypocrisie. Est-ce que vous avez connu ce type de parcours autour de vous, pour vous-même? Évidemment, n'hésitez pas, le 32-16.
Sacré parcours hein, pour ceux qui s'y lancent.
Ah, tu as eu des récits autour de toi, mais on sait que, voilà, que c'est très compliqué, que ça coûte de l'argent, coûteux, ça prend du temps.
C'est faire des sacrifices, hein. C'est dire effectivement que pour avoir un enfant, il va falloir sacrifier beaucoup d'autres choses.
Ouais. Non, mais je vois par exemple Steve là, qui nous écrit sur Direct Studio, on peut voir la GPA comme une monétisation, une marchandisation du corps de la femme, mais au moins avec la GPA, écrit Steve, on est sûr que les parents désirent très fortement leur enfant, qu'il sera aimé et choyé, parce qu'en effet, c'est un parcours du combattant, c'est loin d'être un hasard quand on a un enfant.
Ah oui, là, il faut le désirer, hein, vraiment.
Exactement. Donc ça, voilà, ça, on peut être certain que ses enfants seront choyés et aimés, nous écrit Steve. Je vois que ça fait aussi réagir au 32-16 Stéphane, qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charles. Bonjour Géraldine.
Salut Stéphane.
Bonjour à tous.
Salut Stéphane. Bon, quoi, d'abord, comment ça va? On se lundi matin, là, début de semaine.
Impeccable.
Eh ben, dis donc, toujours. Voilà. Toujours en forme, Stéphane, fidèle d'RMC. Et justement, ce débat sur la GPA, là, ça vient pas de nulle part. Hein. C'est le gouvernement lui-même, une membre du gouvernement, qui dit mettons fin à l'hypocrisie, ouvrons le débat. Est-ce qu'il est temps en France, Stéphane, de lever l'hypocrisie sur la question de la GPA?
Bah oui, parce que de toute façon, ça existe déjà. Donc les gens, ils le font. Peut-être qu'il faut mieux contrôler chez nous, quoi. peut-être.
Oui, on entend parler d'une GPA éthique, nous dit-on. On enlèverait la question de l'argent. Voilà. Est-ce que c'est le seul problème? Est-ce que c'est simplement l'argent?
De toute façon, on n'empêchera pas, hein. Je veux dire, on a beau essayer d'en parler. Moi, je pense que c'est politique. Là, il y a un enjeu politique. Ils viennent en parler. Il y a eu la même chose avec le mariage pour tous, hein. Ça dérange qui? C'est quoi, éthique? Oui, papa, maman, papa, oui, peut-être, mais les enfants, après, moi, j'ai du mal à comprendre le gros débat que ça amène.
Hein. Alors, c'est vrai que le débat sur le mariage pour tous, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, et oui. À l'époque, c'était un débat, oui. Vous avez raison, pour ce
sens. Ah oui, c'était chaud.
C'était un débat enflammé, voire violent parfois, et 10 ans après, plus personne n'en parle. Ça semble
être on arrive à ça maintenant. Ouais. On arrive à ça maintenant, on arrive à la GPA.
Oui, mais est-ce que la société est mûre aujourd'hui pour parler de la GPA sereinement?
Oui, je pense. Moi, je pense. Ça dérange qui, moi?
Après, ce qui pose problème, les opposants disent que c'est payé pour avoir un enfant, c'est qu'il y a des femmes qui, souvent pauvres, qui du coup vont mettre leur ventre à louer.
Oui.
Et ça peut faire. Voilà, c'est de la marchandisation.
Moi, j'ai l'impression, j'ai entendu les mères porteuses. Moi, j'ai 60 ans, ça fait déjà 30 ans, il y avait les mères porteuses déjà, donc il y avait pas. Oui, c'est de l'argent, c'est un problème. Bien sûr que c'est un problème de l'argent. Aujourd'hui, c'est quoi? Les problèmes, c'est l'homosexualité. Il est là.
Bah, pas forcément, Stéphane, parce que justement, ouais. les experts disent dans les parcours de GPA, il y a aussi beaucoup de couples hétéros, oui. Parce qu'il y a eu des cancers de l'utérus, des femmes qui ne peuvent pas
porter d'enfants
et qui ont recours à la GPA. Ça existe aussi. C'est pas qu'une question d'homosexualité.
Ouais. Bah oui, mais si les politiciens, ils amènent ça sur le tapis, c'est pas pour le problème des femmes qui ont des maladies. Hein.
Là-dessus, vous avez raison, Stéphane. Ah, quand les politiques s'emparent de ce genre de sujet, on en sort rarement par le haut. Mais en tout cas, pour vous, Stéphane, la société est mûre. On peut avoir un débat, en tout cas, citoyen, j'ai envie de dire, sur cette question. On verra si les politiques sont à la hauteur ou pas de ce débat. Mais merci beaucoup, Stéphane, d'être venu partager avec tous en ce lundi matin et toujours en forme. Surtout, Stéphane, ça fait plaisir pour commencer la semaine. Bah, venez nous dire si, comme Stéphane, vous estimez qu'on est prêt. Que la société française est prête à avoir sereinement ce débat sur la GPA, ou au contraire, ça vous choque d'entendre cette ministre dire il faut lever le tabou de la GPA. On va continuer à en débattre tous ensemble ce matin. Ça se passe au 32-16. Vous prenez le chemin, comme Stéphane, pour venir vous installer quand vous voulez autour de la table sur RMC.
RMC, Charles Matin.
À suivre sur RMC, le journal de 5h30 là, qui approche dans 5 minutes maintenant avec à la une cette info RMC. Tiens, on vous dévoile le fait que les ventes de vélos se sont effondré l'année dernière. Vous allez entendre l'inquiétude des professionnels du secteur dans notre reportage. Et puis ensuite, toute la bande va nous rejoindre dans Charles Matin. Vous connaissez notre Dream Team. Il y aura Jordan Olivier. Tiens, pour la Story Sport, on va fêter la qualif des Lyonnaises pour leur 11e finale de Ligue des Champions. Anthony Morel, lui, va nous présenter la course automobile du futur. Et puis tout de suite, tiens, avec toi, Géraldine, la solution conso.
Et on va s'occuper de nos animaux de compagnie à moindre frais.
RMC, 5h-6h30.
Charles Matin. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Excellent réveil à tous. Vous êtes bien sûr RMC. Et comme chaque matin, juste avant 5h30, Géraldine Demory s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Alors Géraldine, on voit les prix qui commencent doucement, très doucement à baisser dans les rayons. Mais il y a encore un secteur qui n'est pas concerné par ces baisses. C'est l'alimentation de nos animaux de compagnie. Au contraire, les prix continuent à grimper. Alors comment faire baisser un peu la facture?
Oui, ça concerne quand même pas mal de monde, hein, puisque plus de la moitié des Français qui a un animal de compagnie. Alors oui, avoir un animal, ça coûte cher. En moyenne, par mois, il faut compter 50 euros pour un chat, 60 euros pour un chien. Un chiffre en hausse, notamment à cause de l'augmentation de 20% de la nourriture pour animaux sur un an. Alors pour réduire la facture, méfiez-vous des paquets avec une mention « nouveau format ». Généralement, nouveau format, ça veut dire que le paquet est plus petit pour le même prix, voire pour plus cher.
Oui, donc c'est vrai que c'est un nouveau format.
Ouais, c'est un nouveau format,
mais
c'est vrai.
Mais c'est un mauvais coup pour le pouvoir d'achat.
Ouais, généralement, ça, c'est pas bon signe. Donc, vérifiez bien toujours le prix au kilo, hein, pour comparer. On pourrait être tenté de se rabattre sur des croquettes premier prix, de moins bonne qualité. Attention, parce qu'avec un animal moins bien nourri, vous risquez d'aller plus chez le véto, donc c'est pas forcément non plus un bon calcul.
Ouais, mais alors, comment je fais?
Alors, vous pouvez acheter en gros, parce que plus vous allez acheter en gros, plus le prix au kilo va baisser. Si vous ne pouvez pas stocker ou si ça vous fait trop à dépenser d'un coup, vous pouvez vous y mettre à plusieurs, entre voisins. Par exemple, il y a des groupes aussi de propriétaires d'animaux sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez faire comme ça des achats groupés, ça vous coûtera moins cher. Et puis il y a aussi beaucoup de Français qui cuisinent maintenant pour leur animal, alors ça peut être les restes du repas. Vous pouvez demander aussi à votre boucher qu'il vous mette de côté ce qu'il ne peut pas vendre, simplement parce que c'est pas présentable. A priori, votre animal, lui, sera pas trop fine bouche. Attention juste de bien en parler avec votre véto, hein, pour respecter quand même une alimentation adaptée.
Ah mais justement, parlons-en du véto, parce que ça aussi, ça coûte très cher quand on a un animal.
Oui, mais il y a des moyens de payer moins cher en passant par exemple par une une école vétérinaire. En moyenne, ça va être 30% moins cher qu'un cabinet classique. Les élèves vont soigner votre animal, mais sous la surveillance d'un professionnel. Donc, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Vous avez aussi les centres de santé de la SPA qui prendront votre animal si vous pouvez justifier de faibles revenus. Et puis, tiens, pour garder votre animal pendant les vacances, si vous n'avez pas de voisins sympas, vous pouvez aller sur des sites d'échange de garde d'animaux entre particuliers. Vous avez pabette.com ou encore empruntemontoutou.com.
empruntemontoutou.com, c'est bien noté. C'était les astuces, la solution conso de Géraldine, à retrouver quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et juste avant les infos de 5h30, on se fait plaisir tous les matins, on sourit avec le meilleur d'Arnaud Demange. Tiens, Arnaud qui nous a parlé du cabaret, du Moulin Rouge, qui a perdu ses célèbres ailes.
Oui, après Notre-Dame de Paris qui brûle, c'est un nouveau monument français qui est atteint ce matin. Le Moulin Rouge, regardez, on dirait Philippe Poison. Le Moulin Donc le Moulin Rouge, il est connu pour ses spectacles de French Cancan, de femmes nues, d'opérettes. Je me suis renseigné, au début du siècle, le Moulin Rouge a programmé des spectacles avec des noms comme La Feuille de Vigne, ou Tais-toi, tu m'affoles, ou Voluptata. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. En fait, c'était programmé par Égésip Fulgence Sébastien, l'arrière-grand-père de Patrick Sébastien, qui était là. Sacrebleu, c'est génial! Ça n'est que de l'amour, ça perd l'hypopète!
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure en direct, évidemment, dans Apolline Matin, 5h30.
RMC, Charles Matin.
Excellent réveil à tous. Bon courage en ce lundi matin. On est tous ensemble sur RMC pour toute l'info, votre journal en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles. Bonjour à tous. Coup de bordure pour les vélos après une croissance record. Les ventes s'essoufflent. Moins 14% l'an dernier par rapport à 2022. Exclusivité que vous révèle RMC ce matin. Faut-il légaliser la GPA, la gestation pour autrui en France? Sur notre antenne hier, la ministre chargée de l'enfance appelle à l'ouverture d'un débat serein et apaisé sur le sujet. Et puis Paris, sacré champion de France après la défaite de Monaco à Lyon 3-2, 12e titre pour les Parisiens, c'est un record en attendant les demi-finales de la Ligue des Champions.
Les ventes de vélos rétropédales.
Moyen de transport le plus vendu en 2022. Les ventes de vélos neufs reculent en 2023 en baisse de 14% par rapport à 2022. Résultat d'une enquête de l'Union Sport et Cycle que vous révèle RMC en exclusivité ce matin. Qu'ils soient mécaniques ou électriques, tous les vélos sont concernés par ce coup d'arrêt, Lucas Laubert.
Oui, c'est le cas de Valère Vanier, gérant de magasin de vélos à Paris. Son chiffre a baissé en 2023.
On a eu une petite contraction, alors je vais dire moins 5 à moins 10%.
Moins de ventes, en particulier sur les vélos de ville, qui ont pourtant connu un vrai engouement ces dernières années. Frustrant pour Valère Vanier.
Cette baisse est désagréable, évidemment, parce qu'on est toujours, on va dire, dans la recherche de progression. Mais on a fait suite à la bulle Covid.
Elle a permis de démocratiser l'utilisation du vélo, plus 42% de chiffre d'affaires depuis 2019 pour le secteur. Mais cette bulle se dégonfle maintenant et les raisons sont multiples. L'inflation qui a pu freiner les consommateurs malgré de nombreuses aides et puis la météo, comme l'a observé Didier, vendeur à Paris.
Quand il fait beau, il y a du monde en magasin, il y a du monde qui appelle, il y a du monde qui vient essayer les vélos, qui achète. Et quand il fait pas beau du tout, ce qui était le cas pendant presque 6 mois, il y a beaucoup moins de monde.
Les vélos électriques, eux aussi, sont moins vendus. Moins 9% de chiffre d'affaires l'année dernière. La faute à un prix qui reste élevé, presque 2000 euros en moyenne.
Bah tiens, racontez-nous ce matin au 32-16, est-ce que vous avez tenté l'expérience vélo ces dernières années? On parle d'une bulle qui se dégonfle. Est-ce que vous en êtes revenu? Est-ce que vous y êtes resté ou pas? Est-ce que le vélo vous a convaincu? Est-ce que c'est la fin un peu, voilà, de cette mode, on va le dire comme ça, du vélo? Ou au contraire, est-ce qu'on a atteint un plafond? Ça y est, les Français ont leur vélo et l'ont adopté pour des années, le font réparer. N'hésitez pas à témoigner. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, à 6h10, on aura avec nous Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Il sera mon invité à 6h10 tout à l'heure en direct sur RMC.
Il est 5h32, une mère de famille et son fils de 15 ans en garde à vue à Châteauroux. Ce dernier suspecté d'avoir mortellement poignardé un jeune garçon du même âge lors d'une rixe dans le quartier de Saint-Denis samedi soir. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. C'est dans ce contexte que Gabriel Attal débute les consultations avec les différents partis politiques au sujet des violences chez les jeunes. Après la mort de Sam Chedine à Viry-Châtillon début avril, il avait appelé un sursaut d'autorité des violences qui se multiplient au sein des établissements scolaires. Dernier exemple en date, la semaine dernière, un professeur de technologie giflé à Toulouse. Face à ces comportements, certains professeurs ont décidé de se former à des cours d'autodéfense. Dans les Yvelines, un club de Krav Maga propose bénévolement des cours au personnel éducatif. Alfred Orange s'y est rendu pour RMC.
Autour du tatami, une quinzaine de profs en survêtement et en chaussettes écoutent Mamadou,
qui a déjà fait du Krav Maga,
leur professeur d'un soir qui donne la leçon.
Le stress, la peur vont faire que je vais perdre mes capacités physiques. C'est pour ça qu'en Krav Maga, on travaille sur des choses simples.
En utilisant notamment la voix et les bras pour se mettre à distance en cas d'agression physique.
Recule.
Lydia, institutrice, vient pour la première fois.
Ouais, mais déjà, tu sais, de montrer... Recule, et là, il peut être surpris, il se dit « Ouh, en fait, ça va pas être si facile que ça ».
En 2 heures, tous les scénarios d'attaque sont abordés, du coup de poing au coup de couteau. «
Surveille les arrières !»
Awa, assistante d'éducation, est une habituée. Apprendre à se défendre à l'école est devenu un besoin.
Ce qui s'est passé à Arras peut arriver ailleurs, donc il faut qu'on soit prêt. Pas vivre dans cette peur permanente de se dire qu'il va y avoir quelque chose, parce que ce ne serait pas faire évoluer les élèves dans un environnement sain non plus, mais c'est de se dire ok, au cas où, les 2-3 petits réflexes que le coach nous a montrés peuvent nous sauver la vie tout simplement.
Devant cet engouement, le club le dit, il pérennisera la rentrée prochaine ses cours gratuits d'autodéfense pour le monde enseignant.
Le reportage d'Alfred Orange pour RMC. La ministre chargée de l'enfance appelle à sortir de l'hypocrisie. Sur RMC, hier matin, Sarah El Haïry, qui dénonce des propos homophobes de Marion Maréchal au sujet de la GPA, la gestation pour autrui, estime qu'un débat sur la législation doit s'ouvrir en France. Une pratique illégale à ce jour dans notre pays sur laquelle Emmanuel Macron s'est toujours montré opposé, Hélène Derzian.
C'est son avis personnel, la cause lui tient à cœur. Au sein de l'exécutif, la prise de position de Sarah El Haïry est vue avec bienveillance, comme le confie ce conseiller macroniste, mais gare à ne pas aller trop loin. Elle en fait trop, lâche le même, elle sait que c'est un sujet sensible. La ministre veut ouvrir le débat, mais sait que sa voix est dissonante, sans l'appui de ses anciens collègues, Olivier Dussopt, Clément Beaune, qui s'était ouvertement prononcé pour, et ce, malgré la ligne du président. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, l'a rappelé la semaine dernière.
La ligne est claire, et la ligne, si vous voulez, je la rappelle, les GPA n'est pas autorisée en France.
La ligne, c'est pas de GPA. Point barre, enfonce un conseiller de l'exécutif et il n'y a aucune chance que le débat s'ouvre, balaye un autre. Quelques députés de la majorité se prononcent hors micro pour une GPA dite éthique qui considère la place de la mère porteuse peut-être sans rémunération, mais c'est loin d'être une priorité. Le sujet est trop clivant et ce n'est pas le moment, insiste une parlementaire, au moment où le texte sur la fin de vie est sur le point d'être examiné.
Bah dites-nous, ce matin au 32-16, est-ce que la France est prête à avoir un débat serein et apaisé. C'est ce que souhaite la ministre Sarah El Haïry hier sur RMC, qu'on lève l'hypocrisie sur la question de la GPA en France. Venez nous le dire ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à avoir ce débat de manière sereine et apaisée? Est-ce que la France est prête à légaliser ou pas la GPA? Vous nous le dites au 32-16.
RMC, il est 5h36. Paris est champion de France ce matin. Charles, vous êtes content?
Ouais, Thibaut Texer un peu moins, on peut le dire, bon, pour son retour, on le savait, de l'OM.
Ouais, pour le retour, c'est un peu dur. Malgré son match nul face au Havre samedi, le PSG a donc décroché hier soir le 12e titre de son histoire. C'est un record, conséquence de la défaite de Monaco, battue à Lyon 3-2, Aurélien Tirsin.
Le suspense n'était pas insoutenable, mais Paris peut officiellement fêter son 12e titre de champion, un record dans l'histoire de la Ligue 1. Avec 12 points d'avance à 3 journées de la fin, le PSG ne peut plus être rattrapé par son dauphin Monaco. Un titre acquis grâce à un parcours exceptionnel à l'extérieur. 22 matchs de suite sans défaite depuis début 2023, encore un record, sans oublier les 26 buts de Kylian Mbappé. Un sentiment fantastique, spécial selon le président Nasser Al-Khelaifi, qui demande encore de travailler dur à ses joueurs, car le PSG peut réaliser un quadruplé historique. Après le trophée des champions et la Ligue 1, Paris est en finale de la Coupe de France contre Lyon le 25 mai. Et surtout, Paris affronte Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. Match aller ce mercredi.
Et dans les autres matchs, Brest a battu Rennes 5-4 et reste en course pour la Ligue des Champions. Les Bretons sont 3e ce matin, Nice bat Strasbourg 3-1. Et puis l'OM a retrouvé la victoire en championnat. Les Marseillais battent Lens 2-1 et reviennent à 2 points de leur adversaire du soir. Et puis tiens, pour les fans de Marseille, pourquoi ne pas vous offrir l'un des 275 anciens sièges du Vélodrome mis en vente aux enchères sur Internet à partir de ce matin.
Génial.
Pièce numérotée avec une plaque d'authenticité. C'est la 4e vente de ce genre au bénéfice de l'association OV School, qui permet à des enfants de Marseille de vivre des vacances sympathiques. Prix de vente tout de même 350 € pièce.
Ah oui, bon. Mais pourquoi pas, non?
C'est un bel objet quand même, c'est un bel objet.
Ah, puis c'est une vente aux enchères.
C'est remasterisé,
ça commence à 350, mais ça peut monter,
oui,
à
ça peut monter beaucoup plus. C'est une vente aux enchères, mais C'est remasterisé, c'est-à-dire que c'est un beau siège, hein. C'est pas juste le.
Bah pourquoi pas, bah même si non, c'était le vrai siège,
quoi, je veux dire, c'est.
Oui, mais on peut s'asseoir dessus, quoi. Oui, voilà. Bah pourquoi pas, non, Thibaut?
Ah bah oui, pourquoi pas,
on
oui.
On va peut-être se cotiser, non, pour le retour de Thibaut Texer.
Ah bah oui, vous pouvez, ouais.
Ouais, peut-être lancer une cagnotte, on verra, pour lui offrir un beau siège du Vélodrome. En attendant, les courses, ce sera pas au Vélodrome, ce sera à Chantilly.
Oui, et c'est à 13h55 sur AMC Découverte, le 3, Gildette Dragon est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 12, Tilila, le 3 et le 12.
C'était le retour de Thibaut Texer à l'info et on est tous ravis de te retrouver.
Et ben moi aussi, je suis content de vous voir.
Thibaut, qu'on retrouve tout à l'heure, 6h30 en direct pour un prochain journal sur RMC. Mais tout de suite, à 5h38, on va aller faire un tour sur Direct Studio. On surveille vos réactions, vous le savez, en direct sur RMC, sur notre appli avec Géraldine.
Et beaucoup de réactions à notre question du jour. Est-ce qu'il faut rouvrir le débat sur la GPA, la gestation pour autrui? Michel nous dit non, la GPA n'est pas une bonne solution avec son lot de dérives. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'enfants à adopter pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement? Voilà, après, ça, c'est une autre question. Nanou qui est contre la GPA, parce qu'il ne faut pas modifier les lois, les règles de la nature. Et puis tout autre sujet, Didier qui nous dit il pleut à Narbonne, youpi, enfin
ah
de la
oui,
pluie.
On et l'attendait, oui. On en annonce même dans les
Pyrénées-Orientales.
Ouais. Là, on l'attend depuis 2 ans,
ça fait pluie. Oui, des mois et des mois qu'on attend, et enfin il va pleuvoir et des pluies durables qui vont faire du bien.
Et ben voilà, on s'en réjouit aussi de la pluie dans certaines régions qui en ont bien besoin ce matin. Évidemment, la météo tous les matins aussi en direct avec Géraldine, vous le savez, sur RMC. Et puis à 5h39, on n'oublie pas de jouer.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Eh oui, vous vous levez tôt, vous écoutez toute l'info sur RMC, ben vous allez pouvoir remporter des cadeaux. Mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu.
Quel club a remporté hier son 12e titre de champion de France en Ligue 1?
Ah, vous avez entendu Thibaut Texer s'en réjouir à l'instant dans son journal. Il vous a donné l'info. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Et vous pourrez gagner un radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller et ne pas louper le début de Charles Matin.
Évidemment, vous envoyez tout de suite actu par SMS 732-16. Vous serez en direct avec nous tout à l'heure à 6h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Et tous les matins, RMC vous emmène dans les coulisses de l'actu. On est avec Cyprien Pézeril du service politique. Bonjour Cyprien.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Bonjour.
Alors Cyprien, vous nous révélez ce matin comment le député LFI de la Somme, François Ruffin, prépare en toute discrétion sa candidature à la prochaine présidentielle.
Oui, un an et demi que François Ruffin sème des petits cailloux sur son chemin, mais désormais, tout s'accélère avec l'installation du siège de son mouvement Picardie Debout. Il y a quelques semaines en plein Paris et en toute discrétion, le recrutement de petites mains pour gérer sa communication, pour organiser ses déplacements. François Ruffin s'entoure aussi, se constitue un réseau, des députés communistes, écologistes, lui fournissent des fiches sur la pêche, sur l'énergie par exemple. Il rencontre aussi des experts. François avait l'habitude de consulter, mais maintenant, c'est systématique, observant de ses soutiens. Alors faut-il s'attendre à l'annonce imminente d'une candidature à la présidentielle? Non, c'est trop tôt, aucune date n'est cochée, prévient de ceux qui travaillent pour lui. Mais il ne faudra pas partir trop tard, complète tout de suite le même. La preuve, avec un sondage commandé par son micro-parti, opportunément publié dans la presse. Résultat sans appel, François Ruffin est le seul candidat d'Union de la Gauche testé en mesure de se qualifier pour le second tour de la présidentielle. 11 points de plus que Jean-Luc Mélenchon. Ce sondage, c'est franchement pas le moment, attaque une mélenchoniste, un autre Gassé assure qu'il n'est pas fiable. Qu'importe, un proche du député de la Somme prévient, François ne tergiverse pas. Traduction, il montre les muscles. Pour la première fois, il peut se targuer de faire mieux que Jean-Luc Mélenchon.
Merci Cyprien. Un discret signé Cyprien Pézeril du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
6h20 de bon matin, vous êtes bien sur RMC. Et si vous êtes si bien le matin sur RMC, c'est en grande partie grâce à la Dream Team, à la bande de l'info du matin, du sport avec Jordan Olivier. Salut Jordan.
Bonjour Charles, dans la story sport aujourd'hui, on va parler des filles de l'Olympique Lyonnais, une nouvelle fois qualifiées pour une finale de Ligue des Champions. C'est la 11e finale qu'elles vont disputer.
De la tech avec Anthony Morel.
Ouais, toi qui aimes bien la Formule 1, je vais te faire découvrir un nouveau sport automobile. Et ah, tu l'as pas vu venir celui-là, je suis sûr.
Ok, tu vas nous prendre de vitesse, ouais. Ça, nous prendre de court. Et puis il y aura aussi le bonus avec Géraldine.
Avec une nouvelle série française qui débarque sur Netflix.
Et puis vous venez vous installer quand vous voulez au 32-16 évidemment pour témoigner en direct sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. RMC. Charles Matin.
Charles Magnin.
À 6h moins le quart, votre bande est là. Mais oui, notre équipe rêvée pour chaque petit déjeuner sur RMC. La tech avec Anthony, on va conduire beaucoup trop vite dans un instant. Avec Géraldine, on va aller faire un tour, tiens, sur Netflix. Et je pense que Géraldine va nous Ah bah va nous donner notre programme Netflix de la semaine, si je comprends bien, avec une série très attendue. Mais tout de suite, le sport avec Jordan Olivier. Alors on va beaucoup parler hein, cette semaine des garçons du PSG et de l'OM, évidemment en Coupe d'Europe. Mais dans ta story sport ce matin, Jordan, tu souhaitais mettre à l'honneur les Lyonnaises.
Oui, je trouve que c'est passé un peu inaperçu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a évidemment raison de se réjouir d'avoir deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe chez les hommes. Ça n'arrive pas tous les ans. Mais chez les femmes, on peut également se targuer d'avoir deux formations dans le dernier carré de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Hier, Paris recevait Lyon au Parc des Princes devant 30 000 spectateurs. Et c'était évidemment sur RMC.
Et le Lyonnais, peut-être le but de la qualification pour la finale de Ligue des Champions. Ça fait 2-1 pour l'OM.
C'est l'OM qui s'est imposé donc 2-1 et qui a donc décroché son ticket pour la finale face au FC Barcelone.
Devant 30 000 personnes au Parc des Princes, je tiens à le redire, 30 000 personnes hier au Parc pour cette demi-finale retour de foot féminin. Bon, finalement, le PSG s'est incliné. C'est pas vraiment une surprise hein, de voir les Lyonnaises arriver en finale de Ligue des Champions.
Effectivement, ce Lyon-là est le plus beau palmarès du football français et européen à jamais. Les premières, elles décrochent pour la première fois la Ligue des Champions en 2011, l'année de l'arrivée de QSI à Paris, qui clame haut et fort à cette époque que la Coupe aux grandes oreilles, c'est l'objectif ultime. 13 ans plus tard, l'OL féminin, c'est 8 titres européens du jamais vu, quand les garçons du PSG rêvent toujours de soulever le trophée. Alors, loin de moi l'idée de faire une comparaison un peu facile, mais si en sport, ce sont plutôt les réussites masculines, c'est vrai qu'ils sont souvent valorisés, on pourrait pour une fois faire l'inverse, et pourquoi pas rêver d'un incroyable triplé européen pour nos clubs français, Ligue des Champions féminines et Europa League.
Oui, ce serait pas mal ça.
Ce serait pas mal. Hein.
Bah oui, et puis ce serait Paris, Lyon et Marseille du coup qui remporteraient ces trois compétitions.
Les trois grands clubs français.
Mais oui, la Ligue des Champions pour le PSG, la Ligue Europa pour l'OM, la Ligue des Champions féminines pour Lyon. Je signe tout de suite. Je pense que tout le monde attend la table. On est tous.
Ah bah il y en a pour tout le monde là au moins.
Mais ouais, non, mais c'est génial. Les Lyonnaises en finale de Coupe d'Europe. On souhaite aux garçons d'être aussi bons que les filles cette semaine évidemment. L'équipe du PSG donc à Dortmund mercredi soir. J'essaye de le dire dans le bon ordre. Et l'OM à Bergame ou.
Au Vélodrome.
Au Vélodrome pour le match aller jeudi en demi-finale de Ligue Europa. Évidemment, ce sera à vivre en semaine spéciale sur RMC. Vous ne manquerez rien de cette très belle semaine européenne pour les clubs français. Alors, il y a le foot, oui, mais l'autre passion sportive, c'est avec Anthony Morel ce matin, notre roi de la tech. Aujourd'hui, tu nous parles d'un nouveau sport automobile. On connaissait alors la Formule 1, le rallye, le NASCAR aux États-Unis. Eh bien, ce week-end avait lieu la première course de voitures autonomes, Anthony.
Ouais, ça se passait à Abu Dhabi sur le mythique circuit Yas Marina qui accueille habituellement les grands prix de Formule 1. Et d'ailleurs, ça y ressemblait comme deux gouttes d'eau, des monoplaces qui roulent les unes contre les autres, une fan zone, un public, mais à l'intérieur du cockpit, pas de pilote, mais un ordinateur, une intelligence artificielle. Bienvenue à l'Autonomous Racing League qui préfigure peut-être le sport automobile du futur, même s'il y a encore un peu de boulot, comme on va le voir. Chaque voiture est programmée par une équipe d'ingénieurs, de scientifiques. Ils partent tous du même modèle, du même châssis, du même moteur, de la même boîte de vitesse. Alors pour les connaisseurs, c'est des voitures de super formula japonaise, donc elles peuvent monter jusqu'à 300 km/h quand même, hein, avec plein de capteurs à l'intérieur.
C'est des espèces de Formule 2, on peut le dire.
Voilà, ça, Formule 2, enfin c'est quand même des vrais bolides,
on est
d'accord.
Oui, bien sûr.
Et donc à l'intérieur, t'as plein de technologies évidemment, des caméras, un ordinateur, le cerveau numérique du bolide, tout ça est programmé pour optimiser les trajectoires, s'adapter aux conditions de la course, analyser en temps réel l'environnement de la voiture, la position des voitures concurrentes, les éléments comme la chaleur des pneus, des freins, et prendre toutes les 5 millisecondes des décisions, comme le ferait un pilote humain, tourner le volant, changer de vitesse, freiner, etc.
Pour être précis, elles sont parfaitement autonomes. Une fois qu'elles ont démarré, il n'y a pas un pilote humain avec une manette de PlayStation dans les stands.
C'est ça, c'est pas des voitures télécommandées.
C'est exactement ça. Voiture sans pilote, mais bon, il y a quand même quelqu'un dans les stands qui joue avec un joystick.
Une fois que la course est partie, les voitures se débrouillent absolument toutes seules. Et d'ailleurs, quand je dis elles se débrouillent toutes seules, on va dire ça s'est pas aussi bien passé que ça aurait dû. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de bugs sur cette première édition. Donc, t'as eu des voitures qui sont retournées sur elles-mêmes, d'autres qui sont entrées dans des murs, qui ont raté des virages, deux qui sont entrées en collision.
Ouais, mais c'est pas arrive. Moi, ça me donne envie de regarder.
C'est ça. C'était presque un sketch, quoi, si tu veux.
Ouais, tu nous dirais, elles ont roulé les unes derrière les autres pendant 50 tours.
Ce sera un peu ennuyé. Voilà. Là, pour le coup, il y avait un peu d'animation, certains disaient, c'est un peu une blague, quoi, parce qu'on nous promettait le sport du futur, et finalement, moi, je trouve que pour une première édition, c'est pas si mal, et puis, encore une fois, ça préfigure peut-être le sport automobile de demain, où il n'y a aucun doute sur le fait qu'un jour, on puisse avoir des bolides qui roulent aussi vite que des humains sans pilote, quoi.
Oui, mais alors, ok, j'entends, mais est-ce qu'il y a un vrai intérêt, est-ce qu'il y aura un public pour regarder des voitures sans pilote,
je sais pas,
toute seule?
Vous regarderiez-vous ou pas?
Bah, aujourd'hui, j'ai envie de dire non, et puis peut-être que dans 10 ans, on se dira, bah,
évidemment. Après, faut pas oublier que derrière, il y a quand même des hommes et des femmes qui ont fait tout le boulot pour programmer la voiture.
Exactement.
Pour faire qu'elle soit lancée, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je le vois aussi comme ça, et je trouve qu'il y aurait aussi un intérêt, peut-être, à avoir des humains contre des machines. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire.
Exactement. Moi, c'est ça qui me ferait kiffer. Je vous avoue, c'est exactement, on est peut-être au moment comme quand, dans les échecs, vous aviez, vous savez, Deep Blue, l'ordinateur contre Kasparov, et on savait pas trop qui allait gagner. Aujourd'hui, c'est plié, hein. L'ordinateur bat l'humain à tous les coups, il n'y a aucun souci. Mais on est à ce moment de bascule où, pour l'instant, l'humain, en matière de sport automobile, a encore l'avantage sur la machine. Ça ne va pas durer, mais je pense qu'avoir ce genre de compétition, ça pourrait être extrêmement intéressant.
Ouais, là, je suis d'accord.
Et on va avoir ça dans tous les domaines. Par exemple, il y a quelques semaines, là, l'armée américaine a fait s'affronter un pilote de chasse humain contre un drone, un pilote de chasse intelligence artificielle, pour voir qui serait le plus fort.
Enfin, pour l'instant, on organise des matchs hommes contre machines.
Exactement.
En fait, ça me fait penser, parce qu'on parlait des sports avec de la technologie, on a vu aussi, tu nous avais déjà montré ça, donc parler de ça, Anthony, c'est ces robots qui jouent au foot, là.
Ouais, exactement.
Oui, mais personne n'a envie de regarder un match de robots. Enfin,
attends, si les robots.
Pour l'anecdote, mais on n'est pas prêt de se faire des championnats entiers. Enfin, je sais pas.
Non, mais c'est parce qu'on en est très loin d'un point de vue technologique aujourd'hui.
Mais un jour, si les robots sont assez forts, on pourra avoir un match robot contre humain.
Ouais, c'est l'objectif. Les organisateurs de la RoboCup, ce serait de faire s'affronter une équipe robotique et une équipe d'humain. On en est très loin, parce que pour l'instant, c'est vraiment des papiers arthritiques, les robots qui jouent au foot. C'est pas du tout au point. Mais attends, bah, si, moi, je regarderais carrément. Si t'as demain le PSG contre PSG robot, je trouverais ça complètement dingue comme spectacle. Je sais pas pour toi, mais ça serait
incroyable. C'est clair, ça serait intéressant de voir qui domine qui, mais j'ai l'impression qu'on a toute une batterie de technologies. On n'arrive toujours pas à caler une image pour l'arbitrage vidéo en France.
Oui, c'est vrai. Quand même assez délirant. Ne sautons pas les étapes, Jordan a raison. Tiens, il y a Philippe qui veut nous rejoindre autour de la table depuis l'un, notre chef de cuisine. Salut Philippe.
Salut toute l'équipe, un petit bonjour à Anaïs Sens qui doit toujours m'appeler, que j'attends.
Ah, bah on l'entend, Anaïs, les grandes gueules, mais là vous êtes dans Charles Matin, Philippe Lefto, fidèle d'RMC, on l'entend. Et alors tiens Philippe, je vois que vous vouliez fêter le titre du PSG en Ligue 1, c'est ça?
Ah, les balles, vous avez joué contre Pim et Poum, vous pouvez bien gagner le titre de champion de France.
Ah bah c'est pas gentil pour nos adversaires, pour les...
Mais il n'y a personne dans le championnat de France, et franchement quand on regarde...
Monaco fait une très belle saison.
Mais quand je regarde le foot anglais, et puis je regarde la Ligue 1, j'ai l'impression de regarder deux sports différents.
Oh oui, non, mais c'est vrai que le PSG écrase un peu la Ligue 1 ces dernières années. Il y a eu d'autres champions entre-temps. Je pense à Montpellier, les premières
Lille
années.
Aussi.
Lille, Monaco a remporté le titre. Donc c'est pas impossible de battre le PSG. Mais Philippe,
oui,
vous,
mais avec
ça...
le budget que vous avez, si vous n'étiez pas champion de France, sans déconner, ça serait une
catastrophe. Non, mais c'est vrai. Non, mais Philippe a raison. Il y a un petit côté minimum syndical pour le PSG d'être champion de Ligue 1. Mais ensuite, il faut le faire. Ils ont fait le boulot et puis ça leur permet d'être tranquille, la tête, l'esprit tranquille pour la Ligue des Champions, Philippe.
Oui, mais tant que vous jouez contre Pim et Poum, ça marchera. Hein,
je vous sens pas confiant, Philippe, pour la Ligue des Champions, pour le PSG, là.
Mais vous pouvez dire merci à Lyon, comme dit mon collègue, parce que hier soir, ils ont battu Monaco. Je crois que c'est ça.
Ah, bah oui, c'est, hein, c'est grâce à Lyon que le PSG est
sorti. Non, c'est pas grâce à Lyon. C'est quand même grâce à leur prestation. Mais
ah, bon. C'est bien de le reconnaître, Philippe.
Et ouais, vous dites, le championnat est tellement faible.
Mais attendez, Philippe, vous dites avec mon collègue, il y a quelqu'un avec vous, là? Il y a votre collègue déjà?
Ouais, j'ai mon collègue du Haut-Rhin. Bah, nous, on est dû au boulot depuis 5h30.
Et comment il s'appelle, votre collègue? Qu'on le salue aussi.
Bruno.
Eh ben, salut Bruno, voilà, Philippe.
Ah bah
Bruno.
Oui, hein.
Bah oui, je dis toujours qu'on est tous ensemble, mais même au 32-16, voilà, on peut appeler à plusieurs, c'est comme ça aussi le matin.
Moi, je tourne au boulot, là. Hein,
vous avez repris aujourd'hui?
Oui, non, jeudi déjà, et là, puis je vais aller faire des chouquettes pour les gamins pour midi.
Des chouquettes,
ils
non,
ont
mais.
On a la chance de vous avoir, Philippe et Bruno, là, de bon matin, les élèves qui ensuite, malheureusement, ce soir, vont regarder Netflix. Comme nous tous. Non, j'exagère, mais parce que j'aimerais passer au bonus avec toi, Géraldine, et cette série dont on a beaucoup entendu parler. Il y a eu beaucoup de promos pour cette série événement qui est attendue sur Netflix.
Ouais, franchement, elle a l'air géniale. Alors, c'est une série comique portée par Pierre Ninet. Ça s'appelle Fiasco. C'est l'histoire du tournage d'un film qui vire à la catastrophe. Pierre Ninet incarne un jeune réalisateur naïf, incapable de diriger.
Allez, ça tourne. Action, tu peux dire action.
Action.
Un petit plus fort.
Plus fort.
Ah non, tu dis action plus fort.
Action. Ouais.
Alors, il est entouré de Géraldine Nakache en assistante, Vincent Cassel en star du film, François Civil dans le rôle de son meilleur ami. Un gros casting pour cette série conçue et réalisée par le même créateur que Family Business, qui était déjà sur Netflix.
Ah, c'est bien Family Business.
Là, ça s'appelle Fiasco. 7 épisodes qui seront mis en ligne demain.
Si je me loupe, j'aurai pas d'autre chance. C'est mon premier et mon dernier film. Ça va le faire, là. Faut que tu te reboostes, hein. Oublie tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme. Hein? Pourquoi, qui dit ça? Non, mais personne, mais les gens à l'internat, quoi, au village, ta famille aussi. Bon, allez, super, t'as bien fait de passer, toi, c'est comme ça que tu me remontes le moral.
Pierre Ninet, donc en réalisateur très débutant, il ressemble à Harry Potter dans la bande-annonce que j'ai regardée.
C'est
aussi.
Vrai.
Ouais, on verra ce que ça donne. Pierre Ninet, bah c'est la même bande, hein. Géraldine Nakache, François Civil. Oui, vous aviez aimé Family Business. Alors,
ah, moi j'adore.
Quand on dit le titre, on s'en souvient pas forcément.
C'était, ouais, c'était avec Jonathan Cohen.
Ouais, voilà, et Gérard Darmon. C'était cette famille qui se mettait à vendre, ouais, de la marijuana.
Des bouchers qui devenaient, cultivateurs de marijuana.
C'était très drôle. On verra ce qu'il en est avec Fiasco, donc la série portée par Pierre Ninet, qui débarque sur Netflix. On va remercier Philippe d'être passé par le 32-16 et Bruno, si j'ai bien compris, Philippe. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis moi, je passe un petit message parce que moi, je suis un fan de rugby à Toulouse et puis à l'Union Sportive Poissan-Pays de l'Ain.
Bah,
et d'aller gagner à Bourgoin samedi.
Et ben voilà, d'aller gagner à Bourgoin pour le Pays de l'Ain. Toulouse aussi. Bon, bref, l'Ovalie, on a bien compris, Philippe. Et vous tombez bien, parce que sur la AMC, oui, on suit le foot, mais aussi, évidemment, tout le rugby. Tiens, notamment dans le Super Moscato Show tout à l'heure, dès 15h. Merci, Philippe et Bruno, les Leftos, d'être passés par le 32-16, nos chefs de cuisine du côté de la... Ils ont de la chance, hein, les collégiens. Bah, c'était pas toujours chouquette.
J'aime bien les chouquettes, moi aussi.
Ouais, ça fait rêver tout le monde. Allez, 5h55 sur RMC. Dans un instant, c'est le journal, évidemment. Toute l'info en direct avec à la une le PSG, justement, qui a remporté sans jouer son 12e titre de champion de France. On va tout vous dire dans un instant dans le journal de 6h. Et puis ensuite, cette info RMC, on vous le dévoile, les ventes de vélos ont drastiquement chuté l'an dernier. Les Français achètent beaucoup moins de vélos. Pourquoi ? Le représentant de la filière vélo est avec nous justement à 6h10. Vous êtes peut-être passé au vélo ou pas ? Est-ce que vous avez renoncé ? Est-ce qu'on fait plus réparer désormais aussi son vélo ? On va faire le point dans un instant. C'est sur RMC, ne bougez pas.
RMC, 5h-6h30,
Charles Matin.
Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct, c'est votre journal présenté par Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Paris, champion de France pour la 12e fois et désormais cap sur la Ligue des Champions. Demi-finale aller à Dortmund mercredi. Un mineur de 15 ans et sa mère en garde à vue pour le meurtre d'un autre adolescent du même âge ce week-end à Châteauroux. Et puis en mai, fais ce qu'il te plaît, merci les jours fériés. Sauf qu'avec tous les ponts, certaines entreprises se retrouvent en manque de bras.
Et puis les ventes de vélos qui se sont effondrées en France en 2023. Moins 14%, c'est une info RMC. Alors, est-ce que les Français ont arrêté de pédaler ? Le représentant de l'Union Sport et Cycle est mon invité juste après le journal. Le PSG, sacré champion de France pour la 12e fois.
Un record dans l'histoire de la Ligue 1 et un titre obtenu sans même jouer grâce à la victoire de Lyon 3-2 contre Monaco hier. Mais de quoi mettre les Parisiens dans les meilleures dispositions avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions mercredi face au Borussia Dortmund. Et l'un des hommes forts de ce titre, Arthur Perrault, c'est évidemment le coach Luis Enrique.
Oui, et Luis Enrique ne compte pas s'arrêter là. Première saison à Paris et premier titre de champion de France. Pour notre consultant Jérôme Roten, le coach espagnol a réussi sa mission.
Ça a beaucoup fait de débat comment Luis Enrique arrivait à faire tourner son effectif, mais n'empêche qu'il l'a bien mené. Je trouve que c'est un très beau champion.
Arrivé à l'été 2023, Luis Enrique fait mieux que ses prédécesseurs. Une série d'invincibilité de 26 matchs consécutifs. Les Parisiens n'ont plus perdu depuis le 15 septembre dernier.
Je trouve qu'ils ont été, en termes de régularité, très impressionnants. Le travail de Luis Enrique est remarquable. Il montre que le technicien est à la hauteur des attentes.
Le club parisien peut désormais se concentrer sur son ultime objectif, la Ligue des Champions. L'éditorialiste Daniel Riolo est confiant.
C'est un atout qui est absolument formidable. On va pouvoir ranger ce titre de champion. Pensez maintenant à la double confrontation contre le Borussia Dortmund. Là, le rêve, il est plus que permis. Il est autorisé, il est là.
Autre trophée à portée de main, la Coupe de France avec la finale dans un mois contre Lyon. Paris est encore en lice pour un quadruplé historique.
Et l'autre bonne nouvelle du week-end, c'est Brest qui sera européen la saison prochaine après sa victoire spectaculaire 5-4 face à Rennes. De son côté, l'Olympique de Marseille se replace dans la course à l'Europe en battant Lens 2-1. Il est 6h02 sur RMC. Gabriel Attal s'attaque aujourd'hui à l'ultra-violence des mineurs. Et pour ce faire, le Premier ministre entame ses consultations. Il va recevoir tous les chefs de parti et ils auront de quoi discuter concrètement avec le nouveau drame qui s'est produit à Châteauroux ce week-end. Un adolescent de 15 ans tué de plusieurs coups de couteau. Le principal suspect, lui aussi âgé de 15 ans, a été placé en garde à vue avec sa mère. Et il semblerait, Guillaume Bié, qu'il n'en était pas à son premier coup d'essai.
Oui, ce jeune suspect, ce sont des témoins sur place qui l'ont désigné aux enquêteurs samedi. Un adolescent de 15 ans, c'est lui qui aurait porté des coups de couteau mortels au thorax de Matisse, un garçon du même âge que lui. Pour quelle raison, dans quel contexte? Ces questions sont au cœur de l'enquête. Le suspect est toujours en garde à vue, tout comme sa mère, soupçonnée d'avoir joué un rôle dans cette affaire. C'est la seconde fois en une semaine que son fils est interrogé par la police, puisque le samedi précédent, il avait été interpellé avec un autre suspect après une agression dans un parc à Châteauroux en plein après-midi. Plusieurs personnes avaient agressé un homme et volé son téléphone portable, peut-être lors d'un guet-apens. C'est l'une des hypothèses de l'enquête en cours, menée par un juge et dans laquelle deux ados sont donc mis en examen et laissés libres sous contrôle judiciaire. Parmi eux, celui qui est mis en cause dans le meurtre de Matisse avant-hier.
Et pour en parler, à 7h10, Apolline recevra Rudy Mana, le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Il est 6h03, l'État à la rescousse d'Atos. Le ministre de l'Économie a annoncé hier son intention de racheter une partie des activités du géant français de l'informatique, à qui l'État a déjà promis 50 millions d'euros pour faire face à ses difficultés financières. Bruno Le Maire a précisé qu'il visait les activités stratégiques de l'entreprise, celles qui permettent d'assurer la sécurité nucléaire et cyber de la France. Secteur d'autant plus stratégique à 3 mois des Jeux Olympiques, mais en a-t-il les moyens? Ce sera tout l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le budget de la France, certes épargné par les agences de notation, mais toutefois à la dérive, sauf que les députés ne sont pas certains de réussir à se faire entendre, Romain Cluzel.
Ce qui gêne beaucoup les députés, quel que soit le groupe d'opposition, c'est la forme que prend ce vrai-faux débat. Une succession de discours à la tribune de l'Assemblée, sans réel échange ni vote à l'issue, et seulement 5 minutes de temps de parole par groupe. Un pis-aller selon un élu insoumis, et un député RN parle même d'une démocratie Potemkin, comprenez, une démocratie en trompe-l'œil. Et puis sur le fond, les critiques sont aussi nombreuses. Une cadre des Républicains estime que ce débat ne changera rien, parce que le gouvernement n'a jamais pris en compte les propositions d'économie de son parti. Un proche de Bruno Le Maire rétorque « Si on veut que ce débat ressemble à quelque chose, qu'on nous fasse des propositions concrètes d'économie. » Bref, chacun se renvoie la balle et la discussion de cet après-midi risque bien de ne satisfaire personne.
C'est le retour de la coqueluche en France et dans toute l'Europe. Alerte lancée hier par Santé publique France. 8 régions sont désormais touchées, Nicolas Roper.
Oui, inquiétude très forte de Santé publique France parce qu'il n'y a jamais eu autant de malades depuis 7 ans. 70 cas répertoriés depuis le début de l'année avec une vingtaine de clusters. L'an dernier, il n'y en avait que 2. La coqueluche est en plus extrêmement contagieuse. Par exemple, un porteur du Covid peut contaminer 3 personnes, un malade de la coqueluche jusqu'à 17. Seule barrière, la vaccination, elle est obligatoire pour les nouveau-nés, mais pas pour les adultes. Et pourtant, c'est très important, explique Daniel Floret, professeur émérite de pédiatrie à l'Université de Lyon.
La dernière recommandation qui a été mise en place, c'est de vacciner les femmes enceintes. Ces mères vont transmettre des anticorps contre la coqueluche à leurs nouveau-nés, qui vont être protégés par les anticorps maternels pendant quelques mois. Donc ça, c'est une mesure extrêmement efficace.
Principaux symptômes de la coqueluche, des quintes de toux parfois insupportables, et elle est surtout dangereuse pour les nourrissons de moins de 6 mois qui peuvent parfois en mourir.
6h06, c'est un mois de mai allégé qui s'annonce pour beaucoup de salariés. Les jours fériés vont permettre de faire de beaux ponts cette année, mais évidemment, tout le monde a eu la même idée. Les entreprises tentent donc de s'adapter, Luc Allobert.
Oui, parce que ces ponts de mai, beaucoup comptent en profiter. C'est le cas dans l'entreprise Axens, une société de conseil en énergie. Cyril Kitt est salarié, elle a posé des jours de congé.
Le 2 et le 3 mai, donc ce qui me fait un énorme pont. Normalement, ça fait 5 jours, je profite, comme beaucoup de Français.
En mai, fais ce qu'il te plaît, oui, mais pas pour tout le monde non plus. Il faut faire des choix pour Stéphanie Paris-Faux, directrice des ressources humaines dans cette entreprise francilienne.
Il y a plus d'arbitrage que d'habitude, parce qu'il y a plus de demandes que d'habitude. Les managers ne peuvent pas dire oui à tout le monde.
D'autant plus que malgré les ponts, l'entreprise doit continuer de tourner.
On a des clients partout dans le monde. Le mois de mai, c'est pas leur sujet. On peut pas se permettre d'avoir toutes les équipes en vacances. Donc ça s'anticipe et ça s'organise.
Mais parfois, ça coûte aussi de l'argent. C'est le cas dans le secteur industriel, par exemple. Benoît Serre est le vice-président de l'Association nationale des DRH.
Vous n'avez pas arrêté votre usine. Donc ça veut dire que là, vous avez soit des gens qui peuvent pas prendre le pont, soit vous avez des jours fériés qui restent des jours travaillés dans cette hypothèse. Dans ce cas-là, les gens sont payés plus cher.
Des ponts qui coïncident en plus avec la fin des soldes de congés payés. En mai, beaucoup de salariés posent leur dernier jour disponible.
Et puis ça y est, on connaît la composition du jury du 77e Festival de Cannes qui démarrera dans 2 semaines avec une grosse tête d'affiche Omar Sy, ainsi que l'actrice Eva Green sous la présidence de la réalisatrice Greta Gerwig, la réalisatrice du film Barbie. Rendez-vous le 14 mai.
Le Festival de Cannes à Eva Green, c'est ça?
Et Omar Sy.
Et Omar Sy en tête d'affiche. Et ben nous, on a Manu le Chypre. Notre tête d'affiche.
Oui, évidemment.
Levé de bonheur. On peut le dire comme ça. De bonne humeur, comme chaque lundi matin. C'est toujours le même miracle. Salut Manu.
Bonjour à tous.
Tout va bien. Et puis on parlait des ponts du mois de mai, là, les entreprises qui vont s'adapter. Le mois de mai, le 1er mai, c'est aussi le muguet. Et ce sera le menu tout à l'heure de Manu Conso. On retrouve Élise tout à l'heure à 7h pour un prochain journal en direct sur RMC et RMC Story. Mais oui, vous pouvez nous voir à la télé. C'est reparti sur le canal 23 de la TNT. Il est 6h08.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et oui, tous les matins sur RMC, on vous gâte, vous qui écoutez, toute l'info, on vous offre des cadeaux, mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu.
Quel club a remporté hier son 12e titre de champion de France en Ligue 1, ce qui rend Charles particulièrement heureux?
Oui, ça fait beaucoup d'indices là, mais vous avez la bonne réponse, tiens, si vous avez écouté le journal d'Élise à l'instant, dans ce cas-là, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 73216.
Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner un radio-réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC, bien sûr.
Et on va même vous offrir, tiens, la coque pour smartphone RMC pour fêter ça, pour fêter ce 12e titre de champion de France. Mais il faut avoir la bonne réponse et envoyer actu par SMS au 73216, le gagnant ou la gagnante en direct avec nous dans 10 minutes.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Dans un instant, cette info RMC. Les ventes de vélos neufs se sont effondrées en 2023. Un rétropédalage très net après des années de forte hausse. Bonjour Virgile Caillé.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de l'Union Sport et Cycle. Alors, est-ce que les Français ont rangé le vélo au garage? Vous nous répondez dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 6h11, vous êtes bien sur RMC. Et ben c'est l'heure de pédaler.
L'invité de Charles Matin.
Avec cette info RMC, donc après des années d'engouement, les ventes de vélos neufs se sont effondrées l'an dernier, moins 14% par rapport à 2022. C'est ce que révèle une enquête de l'Union Sport et Cycle. Et j'accueille justement dans ce studio le délégué général, Virgile Caillé. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que ces chiffres signifient que, ça y est, les Français ont rangé le vélo, arrêtent de se mettre au vélo, de se convertir petit à petit au vélo?
Alors, c'est important effectivement de faire un peu de pédagogie, parce que les chiffres comme ça, un peu bruts, paraissent très négatifs. Or, en fait, c'est simplement un problème conjoncturel, une situation conjoncturelle, alors qu'en fait, si on regarde avec un peu de recul, la situation est encore très positive pour le vélo dans son ensemble. On a un coup d'arrêt pour la vente de vélos neufs. En revanche, et c'est tout le paradoxe de la situation, jamais, jamais les Français n'ont utilisé autant leurs vélos dans leurs déplacements du quotidien. Tous les indicateurs sont positifs, sauf effectivement, pour ce qui nous concerne, les ventes de vélos neufs. Mais c'est, encore une fois, simplement conjoncturel et ça va repartir
donc
assez rapidement.
On pédale de plus en plus, mais il y a quand même eu oui, ce coup d'arrêt, quand même, moins 14%. C'est pas négligeable. Comment vous l'expliquez?
Alors, il y a plusieurs, c'est une conjoncture de plusieurs facteurs en vérité. On a eu des hausses considérables puisqu'on a atteint notre niveau record de vente de vélos neufs en 2021. Évidemment, après 2019, la crise sanitaire, 2020-2021, un engouement inédit, inattendu, forcément, et donc une très très forte demande. Parallèlement à cela, les industriels ont donc produit, mais avec un temps de décalage, donc tous ces stocks sont arrivés sur le marché au moment où la demande baissait. Et donc, effet de surstock. Et puis, il faut pas négliger quand même un contexte un peu anxiogène sur le climat social, le climat économique, le climat géopolitique. Donc, en fait, les foyers ont probablement retardé cet investissement qu'est le vélo.
Vous me parlez de tout sauf de prix, là, pour l'instant. Mais j'ai regardé quand même le vélo neuf classique, enfin, le vélo, comment dire, sans aide électrique, c'est 500 euros en moyenne. On monte à près de 2000 euros. Pour un électrique, ça ne baisse pas vraiment, quoi. Le vélo ne devient pas de plus en plus abordable.
Non, sur le vélo à assistance électrique, on est sur un prix assez stable hein, depuis 5 ans, qui baisse légèrement. Et sur le vélo classique, il y a quand même un effet, c'est que vous évoquiez un recul du vente des vélos neufs. Il se fait essentiellement sur les vélos enfants et les vélos premier prix. Et parallèlement à cela, il y a deux segments de marché qui progressent. ce qui traduit quand même toujours l'engouement du vélo, c'est le gravel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est une sorte de SUV du vélo, un vélo dans un format un peu vélo de course, mais entre le VTT et le vélo de course en fait. Et puis le vélo de course donc et le gravel qui sont en très forte progression. C'est des vélos avec un prix moyen un peu plus élevé. Donc c'est ce qui explique cette augmentation du prix moyen.
Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, les Français ont acheté leur vélo après le Covid et depuis ils le font réparer, ou il y a un marché de l'occasion qui s'est développé, etc. On achète de moins en moins de vélos neufs, mais on ne pédale pas moins. Pour autant, en revanche, on est en retard par rapport à nos voisins.
Exactement.
On achète moins de vélos, on pédale moins, on a moins adapté aussi notre pays au vélo.
Alors, vous avez parfaitement raison, c'est un des éléments, on est en train de rattraper notre retard. Pour l'anecdote, notre premier plan national vélo, c'est en 2018, alors que dans les pays voisins, notamment les pays scandinaves ou le Benelux, ça date des années 70. C'est un choix politique qui a été fait à l'époque d'aménager les villes pour accueillir des vélos.
Mais il y a eu des plans vélo annoncés par le gouvernement ces dernières années.
Il y en a eu en 2018.
On nous parle de 6 milliards d'euros qui vont être investis d'ici 2027, 100 000 kilomètres de voies cyclables d'ici 2030. Est-ce qu'on est dans les temps par rapport à ce qui a été annoncé ces dernières années? Est-ce que ça va assez vite?
Alors, ça va jamais assez vite, mais objectivement, je pense que le gouvernement a pris conscience de cet enjeu par conviction et puis aussi un peu par nécessité. On voit bien les évolutions aujourd'hui d'aller vers quelque chose d'un peu plus environnemental, voilà les enjeux écologiques. Donc oui, on avance. Mais c'est un tout pour que les Français achètent des vélos neufs, qu'ils utilisent leurs vélos encore plus régulièrement au quotidien. Il faut des parkings sécurisés, il faut de la sécurité sur les voies cyclables. C'est effectivement un tout. Et il faut aussi des vélos peut-être un peu plus accessibles, des vélos fabriqués en France.
Ah, donc il faut peut-être des aides aussi pour l'achat d'un vélo. Il y en a qui existent, mais alors quand on veut se lancer, on a l'impression qu'il y a l'aide de la mairie, de l'entreprise, de la région, du département, de l'État. Comment s'y retrouver là? Si je veux acheter un vélo neuf, que je rentre dans un magasin de cycle dans mon quartier, est-ce que le vendeur, lui, connaît toutes les aides locales, nationales, etc., auxquelles j'ai droit?
Objectivement, oui, mais ce sont beaucoup des aides, effectivement, vous l'avez dit, des collectivités territoriales. Alors, il y a des aides nationales, elles ont du mal à trouver leur public, puisqu'il y a des conditions de ressources qui sont telles que les gens qui seraient éligibles, c'est pas vraiment leur première priorité d'acheter un vélo assistance électrique.
Donc des aides parfois mal calibrées, mal ciblées. Manu Le Chypre a une question.
Oui, c'était sur la comparaison qu'on fait souvent avec les étrangers. On dit on est en retard, mais en fait, on prend toujours souvent les mêmes références, les pays scandinaves, la Belgique, les Pays-Bas. Mais d'abord, c'est des tout petits pays. C'est des pays qui sont à topographie facile, en fait, pour le vélo.
Ça grimpe pas.
Il y a plein de régions en France où c'est quand même compliqué d'utiliser le vélo comme un moyen de transport.
Alors ça, c'était vrai avant, si j'ose dire.
Ouais.
Avant cette innovation de rupture qu'est le vélo assistance électrique. Aujourd'hui, toutes les difficultés topographiques, elles sont effacées. Donc c'est plus une démarche, mais nous on part depuis peu de temps, hein, je l'ai dit, plan national vélo 2018, puis 2023. Donc oui, le gouvernement prend réellement en compte désormais l'enjeu de la mobilité active, mais on a 40-50 ans de retard par rapport aux pays voisins.
Alors donc, oui, mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme frein pour le Français qui hésite, qui habite à 15, 20, 25 kilomètres de son boulot, qui se dit ça fait quand même une sacrée trotte, maintenant il y a le vélo électrique. Mais je suis désolé, il y a aussi la peur, tout simplement. C'est dangereux de rouler à vélo, ça peut faire peur de
Exactement.
Se lancer à 6 heures du matin sur la route, il fait nuit, on traverse pas des forêts, etc., on est mal éclairé. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Parce que j'entends bien les pistes cyclables en ville, mais tout le monde n'habite pas en centre-ville, n'a pas juste 3 kilomètres à faire. Quand j'habite à 10, 15 kilomètres du boulot, qu'est-ce qui reste comme frein et sur quel levier peut actionner l'État? Est-ce que c'est sur le code de la route, mieux sensibiliser les automobilistes aussi à la présence
Alors,
des vélos?
C'est un tout, effectivement, vous avez raison. Il faut que l'ensemble des parties prenantes considèrent et respectent les cyclistes. Mais la protection des cyclistes, c'est un des éléments clés pour mettre les gens au vélo. Il y a ça et le vol ou la dégradation des vélos. C'est vraiment les deux éléments.
Oui, je vais me le faire voler si je le laisse dans la rue.
Exactement.
C'est ça la crainte.
Donc il faut agir sur ces deux leviers. Et puis parallèlement à ça, il y a un travail de fond à faire sur les enfants. Il y a 50 ans en arrière, même pas 30-40 ans, les gamins allaient à l'école en vélo. Enfin, je veux dire, on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, tout le monde dépose les enfants devant l'école en voiture. Donc, c'est vraiment une culture globale qu'il faut arriver à corriger. Et on avance bien. Et c'est pour ça que la situation est très paradoxale. Et aujourd'hui, on présente ces chiffres. Ils ne sont pas bons cette année. Mais sur à l'avenir, en termes de prospective, on est convaincu que le vélo reste un phénomène de société.
Vous parliez des parties prenantes. Bah justement, l'une des parties prenantes sera tout à l'heure dans ce studio. Le ministre des Transports, Patrice Vergriete, sera l'invité d'Apolline tout à l'heure en direct sur RMC à 7h40. Est-ce que vous avez un message pour le ministre des Transports en tant que représentant de la filière vélo, de l'Union Sport et Cycle?
Oui, en fait, on a un message qui est plutôt positif, puisqu'aujourd'hui, il y a une vraie considération de l'utilisation du vélo dans son quotidien. On a eu, il y a quelques jours, un tout petit peu plus d'une semaine, deux ministres, Roland Lescure pour l'industrie et Patrice Vergriete pour les transports, qui sont venus nous annoncer un appel à projet industrie du vélo, c'est-à-dire 55 millions d'euros qui sont consacrés à l'industrie du vélo pour relocaliser cette industrie du vélo, qui, rappelons-le, était quand même un fleuron de l'industrie française pendant des années et des années. Et puis ensuite, comme je le disais, on a utilisé la voiture, on a oublié ces vélos qui désormais sont faits très loin de chez nous, et c'est un petit peu dommage, alors même qu'on a des marques...
C'est quoi l'écart de prix si je veux acheter un vélo made in France?
Il ne faut pas le réfléchir comme ça. Aujourd'hui, c'est trop important, mais parce qu'on ne sait pas massifier la production. Et c'est ça l'enjeu.
C'est ça le prochain chantier, c'est d'avoir des vélos made in France abordables dans vos magasins.
Absolument.
Merci, Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, d'être venu nous dévoiler ce matin sur RMC en exclusivité ces chiffres. Moins 14% pour les ventes de vélos neufs l'an dernier, mais c'est loin d'être un coup d'arrêt pour le vélo en France. C'est ce que vous êtes venu nous expliquer ce matin en direct sur RMC. Il est 6h20.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant sur RMC, la conso avec Manu Le Chypre.
Eh oui, la tradition du muguet du 1er mai se perd petit à petit en France.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
6h21, vous êtes bien sur RMC. Et bah oui, le 1er mai approche, donc on parle muguet.
RMC, Manu Conso.
Avec Manu Le Chypre, oui, je dis 1er mai muguet, mais c'est une tradition qui se perd.
Eh oui, année après année, effectivement, les Français sont de moins en moins nombreux à offrir leur petit brin de muguet. En 2023, il n'y a que 1,7 million de foyers qui ont perpétué cette tradition, alors que, rappelons-le, il y a quand même près de 30 millions de foyers en France. Ce sont les données de Valor, l'interprofession française de l'horticulture. Alors, il y a plusieurs explications. Le pouvoir d'achat, évidemment, et puis aussi la perte de sens de cette tradition qui était très liée à la fête du travail. Et il faut rappeler que c'est pas anodin, puisque c'est un moyen important, notamment de financement pour le Parti communiste français, qui chaque année tirait quand même 500 000 à 500 000 euros. Mmh. De recettes pour la fête du muguet sur un marché estimé à une vingtaine de millions d'euros. Preuve que c'est une tradition qui se perd. Ce sont surtout les plus de 50 ans qui continuent à offrir leur petit brin de muguet chaque année.
Mais quand on en achète, combien on dépense?
Alors les Français ont dépensé en moyenne 7,80 € pour un brin l'an dernier. C'était 10% plus cher qu'en 2022 et ce sera sans doute entre 8 euros et 8,50 € le brin cette année. Et on voit aussi que les Français achètent de plus en plus des pots et non des brins parce que c'est évidemment plus économique et de plus en plus dans la grande distribution, de moins en moins à la sauvette. Il y a que 4% des brins de muguet qui sont achetés dans la rue et les fleuristes restent évidemment le canal de distribution privilégié.
Et vous vous engagez, Manu, mercredi matin?
Non, je ne m'engage pas.
Allez, pas de brin pour...
Mais il se trouve que je serai tout seul mercredi matin en allant bosser et que je n'ai personne
comment ça,
cette semaine.
Là, nous.
Ah mais oui, c'est une bonne idée.
Oui,
alors à 4h du matin, je ne sais pas si je vais trouver un petit brin de muguet possible à vous offrir.
Mais on est là.
Oui, je passe la matinée à dire on est tous ensemble.
C'est vrai.
Personne n'est seul, même le 1er mai, sur RMC. Et à 6h23, c'est l'heure de jouer.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et c'est Virginie qui a été tirée au sort depuis La Roche-sur-Yon pour jouer avec nous. Bonjour Virginie.
Et bonjour toute l'équipe.
Salut Virginie, comment ça va ce matin?
Eh ben ça va super bien, je suis trop contente d'avoir été sélectionnée.
Non, attendez Virginie, avant de gagner, il faut répondre à la question.
Non, j'ai dit sélectionnée, j'ai pas dit gagner. Oui.
C'est pas la peau d'ours avant de l'avoir. C'est pas encore gagné.
Et on va voir si vous avez gagné. Quel club a remporté hier son 12e titre de champion de France en Ligue 1?
Eh ben je crois que ça a été répété 56 fois ce matin, je crois que c'est le PSG.
Eh ben,
je
C'était très dur, Virginie. On célèbre ça ensemble, Virginie. Virginie, vous avez gagné
Eh bien, votre radio réveil de la marque News pour vous réveiller avec RMC.
Voilà, le radio réveil, il est pour vous. Allez, j'ajoute la coque RMC, évidemment.
C'est
la
génial.
Coque pour smartphone confetté.
Parce que c'est le PSG.
Parce que c'est le PSG et parce que c'est Virginie.
Et parce que Virginie a permis qu'on le dise une 57e fois. Et ça, franchement, Charles, c'est forcément du plaisir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Virginie?
Je suis infirmière.
Infirmière, et levée de bonne heure là déjà pour le boulot à cette heure-ci ?
Eh oui, je vais réveiller ma pépette là dans 3 minutes, une fois que j'aurai fini avec vous, pour aller chez la nounou. Et
ben, vous saluez votre pépette
avant d'aller,
pour nous.
Avant d'aller chez les patients, j'imagine.
Oui.
Bonjour à
Exactement.
Tous, et justement, tiens Virginie, je profite que vous êtes là, puisque dans un instant je vais donner le sommaire de la matinale d'Apolline Matin, et on va évidemment parler GPA notamment. Vous êtes infirmière, GPA, gestation pour autrui, les mères porteuses. Vous avez un avis là-dessus, Virginie, vous en pensez quoi ?
Bah, c'est toujours...
Ouais, je vous écoute. Non, ah, vous hésitez.
Virginie.
Vous vous inquiétez.
Bah, je pense qu'on a perdu Virginie, surtout. Elle est, ouais, non, je pense qu'on a perdu la liaison avec Virginie, mais il y a du suspense, du coup, ce matin sur ce débat sur la GPA.
Et bien, vous venez justement poursuivre peut-être le « et bien » de Virginie. Si vous avez la suite de la phrase, vous n'hésitez pas au 32-16, parce qu'effectivement, ces trois phrases, ces trois mots, ces trois lettres, elles font débat. Gestation pour autrui. Les mères porteuses en France, c'est officiellement interdit, mais ça n'est pas le cas partout ailleurs. Et hier, sur RMC, justement, la ministre de la Jeunesse a estimé qu'il fallait, je cite, « qu'on rouvre le débat. Un sondage ce week-end nous apprend qu'une majorité de Français serait pour, mais pour ou contre, ce qui m'intéresse, c'est surtout votre point de vue, vos témoignages. J'attends vos appels au 32-16. Vous venez nous dire si oui ou non la gestation pour autrui, les mères porteuses, c'est souhaitable ou non. Est-ce qu'il faut autoriser les mères porteuses? Est-ce que d'ailleurs vous auriez pu avoir recours à des mères porteuses? Est-ce que vous y avez pensé? Virginie est avec nous, c'est ça?
Oui, Virginie, vous êtes de retour?
Oui, oui, je suis là, ça a coupé.
Ça a coupé.
Vous en pensiez quoi, vous, tiens, pour lancer le débat?
Moi, je disais que j'étais pour l'amour et pour que la France mette ça sur le tapis, qu'il n'y a pas de... Je pense que les politiques ne doivent pas remettre ça. Non, ce n'est pas le moment d'en parler, il y a autre chose à parler. Non, en fait, je pense qu'il faut...
Il n'y a pas de bon moment, donc en fait, il faut en parler.
Non, il n'y a pas de bon moment.
Voilà, il faut en parler quand on en parle et quand ces questions se posent, quoi. Donc, plutôt pour, en effet, oui. Virginie, merci d'avoir lancé le débat ce matin. Et vous
merci beaucoup
pas.
À toute l'équipe.
Et félicitations encore.
Merci, bonne matinée.
On va parler transport également. À 7h40, ce sera le ministre des Transports qui sera mon invité. On a eu accès hier au contenu de l'accord obtenu par les contrôleurs aériens. Vous allez voir, l'accord est quand même très, très généreux. Hein. Mmh. On sent bien que le chantage à la grève aux Jeux Olympiques, ça marche en ce moment. Ces accords donc, qui ont été obtenus par les syndicats et qui avaient pourtant promis une trêve. On en parle dans une heure donc avec Patrice Vergriete, le ministre des Transports, qui sera là à 7h40. N'hésitez pas, tiens, sur la 13, vous vouliez peut-être prendre la 13, vous savez qu'elle est encore fermée. Là aussi, vous pouvez interpeller le ministre.
On a deux pratiquants de la 13 avec Manu le Chypre
avec
et Géraldine.
Manu et Géraldine qui, tous les deux, sont obligés de contourner.
Bah, à l'aller, ça va. Le matin, la nuit.
C'est ça.
Voyez,
c'est ça.
Au retour.
Le plus dur, c'est au retour. Nous sommes le lundi 29 avril. Apolline Matin, c'est parti jusqu'à 9h. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.